Avec Ève Roger, il est 8h15 et vous recevez à présent Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la citoyenneté.
Bonjour Marlène Schiappa, merci d'être avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Êtes-vous là ?
Bonjour.
Bonjour, alors je vous l'avoue, en préparant cette interview, j'étais un peu déroutée par vos nouvelles attributions. Mes questions risquent de partir un peu dans tous les sens, incivilité, violence faite aux femmes, incendie, radicalisation. Alors pourriez-vous, tout simplement pour commencer, nous dire quelle est la ligne directrice de votre nouveau périmètre ?
Alors tout ce que vous dites là ne part pas du tout dans tous les sens, donc je vous rassure par rapport à ça. Au contraire, tout ça, ça touche à la citoyenneté. Donc je suis désormais la ministre déléguée auprès du ministère de l'Intérieur, du ministre de l'Intérieur en charge de la citoyenneté. Mm-hmm. La citoyenneté, comme on le sait, c'est un ensemble de droits et de devoirs, mais plus généralement, je m'occupe effectivement de cohésion nationale, de prévention de la délinquance et de la radicalisation, mm-hmm. donc de tout ce qui fait de nous des citoyens, de l'engagement par exemple des réservistes, mais aussi de l'engagement des forces de l'ordre dans la protection des femmes face aux violences, et c'est aussi un enjeu de citoyenneté fort. Et puis pour terminer, il y a également les enjeux de défense du principe de laïcité et d'intégration des étrangers en France. Donc c'est effectivement un périmètre très large mais assez cohérent sur tous les enjeux de citoyenneté qui sont portés par le ministère de l'Intérieur.
Alors on va commencer avec le masque obligatoire à l'extérieur dans de plus en plus de villes aujourd'hui en France, hein, Nice, Cannes et puis dès aujourd'hui Marseille ou Rennes. Alors pour moi, le porter, c'est faire acte de citoyenneté. Je protège les autres. Mais certains s'y refusent. Qu'est-ce que vous leur dites à eux ?
Mais je leur dis que c'est une question de solidarité. On ne porte pas un masque pour se protéger soi, on porte un masque avant tout pour protéger les autres. Mmh. Et on ne connaît pas l'état de santé des personnes qui sont autour de nous, dans la rue, dans l'espace public. Il peut y avoir des personnes fragiles, des personnes âgées, des personnes qui ont un cancer, des personnes qui sont asthmatiques, qui ont des maladies graves. Et le Covid, il ne se voit pas, il est toujours invisible pour les yeux. Donc porter un masque, c'est avant tout un acte de solidarité, un acte de citoyenneté. Et un acte de protection des autres. Donc oui, j'incite chacun à porter le masque dès lors qu'il est obligatoire et dès lors qu'on ne peut pas respecter les mesures barrières, les gestes barrières, et donc quand on est à moins d'un mètre de quelqu'un.
Mais ne pas vouloir porter un masque, ça peut conduire parfois jusqu'à des drames. Hein. On l'a vu avec la mort du conducteur du bus de Bayonne, le tabassage d'un père de famille dans une laverie dans le Val d'Oise la semaine dernière. Donc on est bien au-delà de l'acte de citoyenneté.
Alors là, on est sur autre chose. On est effectivement sur des violences, voire des crimes. Moi, je me suis rendue à Bayonne. J'ai remis, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur, j'ai remis la médaille d'acte de courage et de dévouement à la veuve de Philippe Monguillot, ce conducteur de bus de Bayonne qui a été frappé à mort sur son lieu de travail parce qu'il avait demandé à un groupe de personnes de porter des masques et de payer leur ticket de bus, tout simplement. Donc là, on est effectivement dans quelque chose de très grave, qui est insupportable et qui est tout à fait contraire effectivement à tout comportement qu'on peut attendre de chacun.
Mmh. Et on voit que le refus de l'autorité de l'État se voit aussi avec ces agressions violentes contre les forces de l'ordre, je crois que c'est aussi dans votre périmètre. Alors il y a eu la mort d'une jeune femme gendarme de 25 ans à Agen en début de l'été, un policier au Mans tué mardi par un chauffard qui refusait d'obtempérer. Alors est-ce que ça veut dire que la peur du gendarme n'existe plus ?
Vous avez raison de le souligner. Je voudrais adresser toutes mes pensées à la famille, aux proches et aux collègues de ce policier au Mans. Vous savez que j'ai été élue au Mans pendant plusieurs années. Et d'ailleurs, je m'y rendrai cette semaine avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui s'y est déjà rendu pour apporter notre soutien et prendre part aux cérémonies d'hommage à ce policier au Mans. Et puis, je voudrais peut-être profiter de votre antenne pour saluer l'engagement justement des forces de l'ordre qui sont là pour nous protéger et saluer l'engagement des réservistes qui s'engagent comme tous les étés et qui sauvent des vies, ni plus ni moins, à la fois des enfants qui sont en train de se noyer, qui sont sauvés par des forces de l'ordre, par des CRS, par des maîtres nageurs sauveteurs, par des pompiers qui éteignent les feux, qui sont mobilisés près de Martigues en ce moment même. Et je crois qu'il convient de saluer cet engagement et de rappeler aussi que le rôle des forces de l'ordre, c'est de nous protéger. C'est un rôle aussi de cohésion. S'il n'y a pas de police, s'il n'y a pas de gendarmerie, c'est la loi du plus fort. Et donc ce sont les plus fragiles qui vont en pâtir. Donc je crois qu'il est important aussi dans nos discours, y compris médiatiques, de rappeler ce rôle des forces de l'ordre et de saluer leur engagement puisqu'ils nous protègent, on l'a vu, au péril de leur vie.
Oui, mais justement, on a vu hier un gendarme qui a tué un chauffeur routier parce qu'il refusait d'obtempérer aussi. Comment vous réagissez à cette réaction ?
Mais écoutez, on va voir ce que va dire l'enquête. Une enquête a été ouverte par l'IGGN, l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale. Donc nous verrons ce qu'il en est. Évidemment, l'idée, ce n'est pas d'opposer une violence à une autre, oui, ou d'opposer une mort à une autre. Mais on voit bien à quel point le métier de maintien de l'ordre est un métier de plus en plus difficile. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le président de la République, le premier ministre et le ministre de l'Intérieur ont souhaité mettre des moyens supplémentaires. Entre 2017 et 2020, c'est 1,2 milliard d'euros supplémentaires pour les enjeux de sécurité. Il y a 10 000 recrutements de policiers et de gendarmes sur l'ensemble du quinquennat. Je me suis rendue avec le président de la République, Emmanuel Macron, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, auprès de la BAC de nuit à Paris pour annoncer justement des moyens supplémentaires et des primes pour ceux qui travaillent la nuit et qui font du maintien de l'ordre avec des enjeux très très difficiles. À la fois, ils sont appelés pour de la délinquance, des crimes, ils luttent aussi contre le trafic de stupéfiants sur la voie publique. Ce sont des enjeux très très difficiles et on voit à quel point la population, en tout cas, nous a interpellés lors de cette visite avec le président et le ministre de l'Intérieur pour nous dire à quel point l'engagement des forces de l'ordre était fondamental pour maintenir une cohésion dans ce quartier-là.
Mais concrètement, en argent et en nombre de policiers, ça fait combien ces moyens supplémentaires ?
Mais c'est ce que je viens de vous dire, entre 2017 et 2020, c'est 1,2 milliard d'euros entre 2017 et 2020. Donc depuis le début du quinquennat, pendant cette première moitié du quinquennat, ce sont 10 000 recrutements de policiers et de gendarmes. Cette année, le ministre de l'Intérieur a obtenu 2300 véhicules neufs. Alors ça peut paraître peu de choses de parler de véhicules, mais en réalité, quand vous avez des véhicules qui sont inopérants dans les commissariats, dans les gendarmeries, eh bien c'est très problématique. Et il y aura des moyens et des effectifs pour la sécurité dans le prochain budget. Et le président de la République a annoncé 10 millions d'euros pour indemniser les policiers de nuit lors de cette visite à la BAC à Paris.
Alors Marlène Schiappa, vous avez gardé le champ des violences faites aux femmes. Et on voit que les féminicides ont repris de plus belle depuis la fin du confinement. Rien que la semaine dernière, je crois que 3 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex. Alors les bracelets anti-rapprochement prévus dans une loi votée il y a plus de 6 mois ne sont toujours pas disponibles. Pourquoi ?
Alors d'abord, il y a un délai entre le vote de la loi et sa promulgation. Et ça, c'est le délai de la démocratie qui existe pour toute loi. Il y a un vote à l'Assemblée nationale, il y a ensuite un vote au Sénat, il y a une deuxième lecture ou une commission mixte paritaire. Et ensuite, il y a un marché public. Nicole Belloubet, avant de partir, a pris toutes les dispositions pour que ce marché public soit lancé. On ne peut pas, dès lors qu'il y a des achats, des dépenses, l'État ne peut pas aller au supermarché et acheter ce dont il a envie. Il faut passer par un marché public pour ces bracelets anti-rapprochement. Et je le rappelle, ces bracelets permettent justement d'alerter immédiatement les forces de l'ordre dès lors que le conjoint violent s'approche dans un périmètre de cette femme.
Alors c'est pour quand ?
Éric Dupond-Moretti, le nouveau garde des Sceaux, a indiqué qu'à partir du mois de septembre. Les premiers bracelets seraient opérationnels. Mais je veux juste terminer en rappelant ce que vous avez dit, les féminicides augmentent depuis la fin du confinement. Ouais. On observe une baisse des féminicides depuis début 2020. Et on a observé une baisse très nette des féminicides depuis début 2020. Une baisse forte pendant le confinement, oui, et avec le déconfinement, il y a eu effectivement davantage de féminicides parce qu'on sait que souvent c'est la rupture qui est l'acte entre guillemets déclencheur, si on peut le dire ainsi, du féminicide, hélas. Mais nous restons mobilisés pour lutter contre les violences conjugales, bien évidemment.
Alors cette semaine, Le Monde a révélé une note secrète datant de 2018 où un certain nombre de femmes travaillant dans les cabinets ministériels dénoncent la misogynie et le sexisme du secrétaire général de l'Élysée de l'époque, Marc Guillaume. Il était capable de faire des remarques en réunion comme acheter vous un cerveau avant de parler, ça vous changera. Ou alors c'est rare, une femme qui pense, c'est beau aussi quand ça porte une jupe. Alors vous saviez que c'était à ce point-là, puisque à l'époque vous étiez secrétaire d'État ?
Alors non, puisque comme vous l'avez dit, quand on est secrétaire d'État chargé de l'égalité femmes-hommes, donc on est à la fois une féministe mais aussi une femme de pouvoir, donc en général les hommes qui se prêtent à des remarques misogynes prennent garde de ne pas le faire en notre présence, parce qu'en général quand on est misogyne on n'est pas très courageux. Mais en l'espèce, pour ce qui concerne Marc Guillaume, j'attends de voir son expression et ce qu'il va dire sur ses propos. J'ai lu dans Le Monde qu'il démentait avoir tenu ses propos, dont acte. Nous verrons ce qu'il en est, mais moi je crois que les remarques sexistes, elles sont insupportables au travail et qu'il ne faut pas les laisser passer et qu'il est important de condamner très fermement ces remarques qui pourrissent la vie des femmes au travail.
Mais est-ce que ça vous choque le fait qu'il ait été nommé depuis, Marc Guillaume, préfet de la région Île-de-France ? Certains élus commencent déjà à ruer dans les brancards, il doit prendre ses fonctions le 17 août prochain.
Écoutez, moi, je me base sur des faits, et là, on a un article de presse, et donc, comme je vous l'ai dit, j'attends de voir. Moi, pour tout vous dire, j'ai contacté Marc Guillaume, qui est désormais préfet de la région Île-de-France et qui est donc sous l'autorité du ministère de l'Intérieur. Je l'ai contacté afin d'avoir des explications sur ce qui s'est passé, mais je ne suis pas juge et il ne m'appartient pas de me prononcer sur ce cas en particulier.
Mais qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Nous n'avons pas encore échangé sur cette question. Mais comme je vous le dis, moi je crois qu'il est absolument insupportable qu'il y ait ce type de remarques sexistes, parce que certains font ce type de remarques en pensant qu'il s'agit de blagues, ou que ce n'est pas grave, ou par habitude, ou pour faire rire les autres. Ouais. En fait, ça mine la confiance en soi de femme, et on voit qu'il y a des remarques qui sont extraordinairement sexistes. Par exemple, quand on dit d'une femme qu'elle est hystérique, en général, si elle était un homme, on dirait qu'elle est combative.
C'est vrai, mais
quand
c'est ce qu'il aurait dit beaucoup, de vous, hein. C'est ce qu'il aurait dit de vous, que vous étiez hystérique.
Voilà, ce n'est pas innocent de ma part de prendre cet exemple. Voilà. Mais quand un homme parle beaucoup, on dit qu'il est un leader. Quand une femme parle beaucoup, on dit qu'elle est bavarde. Le fameux « elle est hystérique »,« elle a ses règles », son corollaire habituel. Ce sont des choses qu'on ne peut pas tolérer sur le lieu de travail. D'ailleurs, ça s'appelle un agissement sexiste. Et au sens du code du travail, il est vraiment inacceptable de tenir ces propos.
Merci, merci Marlène Schiappa d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je vous souhaite une
merci
très bonne journée.
À vous également, merci Europe 1.
Vous écoutez Europe 1 et toutes les interviews sont à retrouver sur notre site europe1.fr. Il est 8h26, Ève Roger.